étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 43e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir le romancier saint-gaudinois de naissance, Aveyronnais de cœur et toulousain d'adoption Cédric Cyr, dont le dernier roman en date survivante est paru le 16 janvier 2025 aux éditions Michel Lafon. Cédric, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
Si on était demain, j'aurais dit bon anniversaire.
Exactement. Voilà. C'est déjà demain. C'est déjà demain, mon anniversaire. Une année de plus d'écriture et de rencontre.
Tu préfères le mot auteur, romancier ou écrivain lorsqu'on te présente?
Alors moi, je dis toujours romancier. J'ai vu que ça interpellait parfois les gens. Ouais, je me vois plus comme un romancier que comme un auteur. Enfin, mais je suis auteur, en fait, techniquement.
Quels étaient tes rapports à la lecture et à l'écriture lorsque tu étais enfant, puis adolescent, du côté de Saint-Geniez-d'Olt, dans l'Aveyron?
Saint-Geniez-d'Olt, ouais, c'est là où j'ai grandi. Il y a longtemps, c'était il y a 40 ans maintenant que j'étais ado. C'était la seule source d'évasion, la lecture, en fait, que j'avais, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait 3 chaînes de télévision à la télé. C'était avant l'invention d'Internet, avant le streaming. Il fallait louer des cassettes VHS. On avait un cinéma pourtant dans le petit village qui passait un succès chaque semaine. C'est là où j'ai vu tous les grands films des années 80, les Ghostbusters, les Gremlins, les Star Wars évidemment. Et en divertissement, il y avait la lecture et il y avait notamment la médiathèque, la bibliothèque très exactement du village où j'allais toutes les semaines prendre des romans de divertissement, des romans vraiment d'aventure de type Bob Moran. Ça a été mon premier accès à la lecture qui a façonné mon amour profond pour les mots et les histoires.
C'est elle qui t'a donné l'envie de lire?
Ouais, c'est vraiment la bibliothèque de Saint-Geniez-d'Olt que je remercierai jamais assez. Ouais, tout à fait. Et parce que voilà, c'était dur, l'accès aux livres à l'époque était dur à la campagne. Il y avait des choses comme France Loisirs pour les territoires, comme on appelle maintenant, les zones plus difficiles d'accès. Sinon, ouais, j'allais à la bibliothèque et je prenais ce qu'il y avait. Et donc des romans pour ados. C'est où j'ai découvert Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, par exemple, que j'ai pris en bibliothèque.
Tu as fait des études d'anglais, cela a-t-il un rapport avec tes sources d'inspiration, que ce soit le cinéma avec les films d'Alfred Hitchcock ou de David Lynch, les romans de Stephen King, d'Arlene Coben ou de Michael Connelly, et le métal avec Dio, Judas Priest ou Gamma Ray?
Ben en fait, les États-Unis, j'y suis allé parce que j'avais envie de faire autre chose. C'est juste après avoir eu mon bac, j'ai eu l'opportunité c'était un voyage culturel de 1 an. Je suis parti aux États-Unis pendant 1 an scolarisé, mais ça a été un peu compliqué là-bas. Enfin, je me suis déscolarisé là-bas et j'ai fait d'autres choses. Mais ça a été une vraie aventure pour moi. Et j'avais envie de découvrir autre chose. Et en plus, c'était l'époque, donc c'était 1992, 1993. C'était les années où régnait en maître Clive Barker. Il y avait eu les films Hellraiser en 92, il y avait eu Candyman. Il y avait des bandes dessinées partout. Il était omniprésent, ses romans sortaient quasiment un par an, Le Royaume des Devins, c'était vraiment sa grande époque. Et j'ai découvert tout ça encore plus aux États-Unis avec des auteurs même comme Dean Koontz qui marchait à mort à l'époque, qui était omniprésent dans les librairies, dans les spots de pub à l'époque. Donc c'est des auteurs que les gens ont déjà un petit peu oubliés, mais notamment ouais, Dean Koontz m'a vraiment, vraiment influencé plus tard sur l'écriture. Ça s'est fait, c'est pas l'inverse, je suis pas allé aux États-Unis vis-à-vis de mon amour pour ces auteurs-là. C'est là-bas que j'ai baigné dans une culture où ils étaient dans la pop culture omniprésents. Et ça a façonné la personne qui je suis, en fait.
Et l'envie d'écrire est arrivée quand?
J'ai toujours écrit. Ça allait avec la lecture adolescent. Et je reviens toujours pareil sur le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les divertissements qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les plateformes très addictives de type Netflix ou Amazon. Ou il n'y avait pas YouTube, enfin, TikTok ou je ne sais quoi, qui aspirent notre attention. Moi, j'ai vécu une adolescence vraiment comme dans la série Stranger Things. Vraiment, c'est caricatural, mais c'était vraiment l'adolescence que j'ai eue. Milieu rural, on se déplaçait à vélo, on jouait à Donjons et Dragons. Et j'écrivais des histoires pour me divertir, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à faire, en fait. Et j'étais un geek à l'époque. Hein. Déjà, j'adorais les formes de... comme jeu de rôle, quoi, les choses un petit peu à contre-courant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais j'ai écrit pour moi, en fait. Personne n'a lu ce que j'ai écrit jusqu'à mes 20 ans, 25 ans, en fait. Et jusqu'au moment où j'ai eu envie de faire découvrir ce que je faisais, en fait, où je me suis dit, tiens, là, ça commence à être bien. Et ça suffit plus d'écrire pour moi, j'ai envie de faire partager ce que je fais. Mais au départ, c'était vraiment quelque chose de très, très personnel. J'imitais en fait les auteurs que j'adorais. Donc j'écrivais des pastiches de Stephen King, en gros, pour résumer. C'était totalement copié sur tout ce qui me faisait triper à l'époque.
Avant d'écrire des romans, tu as travaillé dans quelques années dans le milieu de l'édition, du journalisme et de la traduction. Écrire pour toi est quelque chose de naturel, d'évident?
Non, c'est dur. J'adore ça, mais c'est pas naturel. C'est vraiment un effort que je dois faire, mais j'adore ça. Mais c'est du boulot. C'est vraiment, les gens se rendent pas compte à quel point c'est. Ouais, c'est pas naturel. Il faut que je cherche chaque mot, le rythme de la phrase. Il me faut plusieurs minutes pour le chercher, pour tester. Enfin, et par contre, j'adore faire ça. Et peut-être effectivement que j'ai commencé à une époque où c'était plus facile de démarrer, même sans trop de bagages, de diplômes. J'ai été traducteur indépendant, j'ai été pigiste pour des magazines. J'ai trouvé des choses à faire qui m'éclataient en fait. J'allais voir des concerts, donc c'était pour des petites radios ou des petites publications. J'allais interviewer les groupes et ça me permettait de passer backstage. J'ai toujours lié en fait le plaisir, le fun avec le boulot. Et ça s'est fait, ouais, sans trop le chercher. Et c'est vrai que j'ai cette facilité, en tout cas ce goût pour le texte, hein, le texte écrit. Et je suis toujours allé vers des métiers qui étaient en rapport avec l'écriture et le texte, et les histoires. Et je considère le métal comme une manière de raconter des histoires.
Tu as commencé à écrire des nouvelles fantastiques et policières. Quand es-tu passé au roman ?
Ça s'est fait de manière à contresens. J'ai commencé à écrire des romans quand j'étais ado, ce que je disais que personne n'a lu en fait. Et quand, donc vers 20 ans, j'ai eu envie de faire partager ce que je faisais, je suis revenu à des histoires courtes, hein, parce que c'était la façon la plus rapide d'écrire, d'imprimer et de faire passer à la fois à mes amis ou par exemple à envoyer à des magazines pour voir s'ils étaient intéressés. Enfin, je lisais aussi dans une émission de radio en région toulousaine, hein, sur Radio FMR. J'essayais de montrer aux gens ce que je faisais et la forme courte, hein, était la plus facile, hein, pour ça. Et en plus, j'ai parlé de Clive Barker tout à l'heure, mais ce monsieur m'a vraiment, vraiment influencé et il avait commencé sa carrière en publiant des recueils de nouvelles. Et donc aussi, à ma manière, j'imitais un peu une de mes idoles en publiant au départ des nouvelles. Et mon premier livre publié en 2005 a été le recueil de ses meilleures nouvelles. Donc c'était ma manière d'imiter, enfin, de marcher dans les pas de Clive Barker à l'époque.
Ton écriture est très noire, elle l'a toujours été?
Ouais. Alors le but n'est pas d'être noir, mais c'est vrai que tout ce que j'invente, et enfin, tu parlais de mes influences, il y a Hitchcock, il y a David Lynch, enfin, c'est des façons de voir le monde de manière très intense, mais assez torturée quand même. Et je trouve ça chouette, c'est comme ça, selon moi, qu'on peut créer des histoires où le lecteur va se sentir impliqué, va ressentir des choses de manière assez stressante et va avoir envie de consommer l'histoire et d'aller jusqu'au bout.
On parlait de noir pour l'écriture, cette couleur t'accompagne aussi côté vestimentaire,
hein? Ouais.
Cela a
ouais.
Forcément un rapport avec ta passion pour le métal et les romans noirs, qu'ils soient thrillers ou fantastiques?
Je me suis jamais posé la question, j'adore le noir et je trouve que c'est rassurant. Alors j'ai des t-shirts de groupe parce que je suis un fan de métal évidemment, et le fan de métal est fétichiste, hein, et achète concert qu'il va voir du merchandising. Mais c'est vrai que d'avoir des pantalons noirs, des t-shirts noirs, des vestes noires, quand je m'habille le matin, j'ai pas à réfléchir, je prends les premiers vêtements que je trouve sur mes cintres et tout va ensemble. Et c'est assez rassurant et puis c'est sobre et c'est voilà, ça me va. C'est comme ça que je me sens bien.
Tu as chanté dans quelques formations de death metal, ton chant est plutôt guttural, t'aurais aimé faire une carrière dans la musique ?
Je pense que si j'avais pas été auteur, j'aurais forcément fait une autre carrière dans les milieux culturels, artistiques. Ça aurait probablement été la musique, c'est la façon la plus simple de s'exprimer, la plus universelle. Et comme je le disais, je suis passionné de métal, donc ça aurait forcément été du métal. Ou d'autres choses, où j'aurais bossé dans, je sais pas, les arts graphiques, ou le cinéma, ou le théâtre. Tout ce qui est culturel, l'art de raconter des histoires. Mais ouais, plus simple, le plus facile, je pense, aurait été d'être guitariste ou chanteur dans des groupes de métal, en croisant les doigts et en espérant que ça aurait marché aussi bien que ça marche pour les bouquins.
Tu es chanteur, mais tu es également guitariste ?
Pour le coup, non. J'étais clavier, ouf, il y a 30 ans quasiment, dans des groupes de black metal, à l'époque où le black metal explosait et métissait pas mal de genres musicaux extrêmes. Mais je suis pas un très bon musicien. J'ai été dans plusieurs groupes vraiment amateurs, on s'éclatait, on était des groupes de potes. On a fait des choses, on a fait des concerts, mais ça relevait du loisir, vraiment plus qu'on restera pas dans l'histoire, clairement. Par contre, juste pour digresser là-dessus, je pense que c'est un phénomène propre aussi au métal. La plupart des gens qui adorent le hard rock, le métal, tâtonnent eux-mêmes, font des petits groupes, sont des passionnés, sont vraiment des passionnés musique, essayent de faire des choses eux-mêmes. C'est assez typique des métalleux, de ce que j'ai pu constater, plus que dans les autres types musicaux.
Donc je ne suis pas un métalleux.
Pas forcément, on peut écouter du métal, oui, mais c'est sans enfer, mais c'est fréquent. C'est fréquent dans les métalleux de s'exprimer par la musique.
Tu as longtemps publié sous le nom de Sir Cédric, alors pourquoi un tel choix à l'époque ?
Ah, c'était une erreur de jeunesse, hein, mais qui est marrante avec le recul, mais oui. C'était mon surnom adolescent parce que j'ai eu une période où je lisais beaucoup d'auteurs classiques. Donc, il y avait tous des titres. Tu avais le Comte de Lautréamont, d'Aurevilly, les Marquis de Sade, Lord Byron. C'était un marqueur de littérature classique. Et j'étais par jeu et j'étais Sir Cédric. Et même d'ailleurs Sir C, fait l'initial C, ça faisait un jeu de mots en plus, Sir C. Et quand les éditeurs m'ont demandé, quand ils ont commencé à m'acheter mes premiers textes et ensuite à me proposer de publier mes bouquins, quand les éditeurs me demandaient si j'avais un nom de plume, par facilité, parce que je trouvais que ça sonnait bien, mais comme un pseudo de musicien de métal, je disais que j'étais Sir Cédric. Et j'ai j'ai commencé à publier comme ça. Mais en fait, les gens ne voyaient pas l'humour, le troisième degré du truc. Et pas mal de lecteurs, je pense, longtemps, n'ont pas osé, n'ont pas été intéressés par mes romans parce qu'ils s'imaginaient que ce n'était pas pour eux. Donc, à un moment donné, j'étais limité par ça et puis je ne me reconnaissais plus du tout dans ce nom-là. Mon prénom est Cédric, les gens croyaient que Cyr était un prénom. Enfin, ça devenait n'importe quoi, donc j'ai inversé, j'ai demandé aux éditeurs de remplacer dans les réimpressions, de remettre dans l'ordre le prénom et le nom de famille. Et voilà, et aujourd'hui, la question ne se pose plus et je pense que tous les nouveaux lecteurs que j'ai ne se sont jamais posé la question. Et c'est plus rassurant d'avoir un prénom, un nom de famille, un nom d'auteur de base. Ça brouille moins le message.
À l'époque, tu lorgnais pas mal du côté du fantastique, mais pas seulement. Tes pochettes de romans étaient forcément bien adaptées au style que tu défendais.
Oui, après c'est compliqué parce que c'est une chose à savoir pour les auditeurs, ce ne sont pas les auteurs qui décident des visuels de leurs propres livres, ce sont les éditeurs. Donc j'ai pas été forcément tout le temps satisfait des couvertures qui ont été données à mes livres, mais en revanche les dernières en date, j'en suis très 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 fier, je trouve que elles sont chouettes, elles sont jolies, elles donnent envie de lire et elles représentent les bouquins. Ça a pas toujours été le cas.
Contrairement à ce que beaucoup de lectrices et de lecteurs croient, le changement de nom, donc Cédric Cyr en l'occurrence, en 2019, n'est en aucunement lié à un changement de style d'écriture. Il y a un temps pour tout où celui de Cédric Cyr était venu.
Ouais, c'est ça. Mais alors, il se trouve aussi qu'en parallèle, la partie très fantastique de mes histoires s'est évaporée progressivement. Mais c'était le cas déjà bien avant que je devienne Cédric Cyr, que je traverse le miroir. Mais c'est vrai que la plupart des gens croient à tort que ce que je signais sous Cyr Cédric était que fantastique. Et non, en fait, j'ai toujours écrit de l'horreur. Enfin, je vois ça comme ça, du suspense, des histoires pleines d'émotions, comme je disais. Et c'est vrai qu'en début de carrière, j'avais tendance à mettre du fantastique dedans pour pimenter le tout. Aujourd'hui, c'est juste exactement les mêmes choses sans le fantastique. Mais je pense pas avoir du tout changé de style, en fait.
Tu as écrit 5 romans en 3 ans avec des personnages récurrents, Alexandre Vauvert, commandant de police judiciaire à Toulouse, et puis Eva Sverta, commandante de police judiciaire à Paris. Ils ont eu finalement une vie assez courte. Les suivre dans le temps ne t'intéressait pas, ne t'intéressait plus?
Ouais, alors en fait, il y a eu 2 romans qui mettaient en scène le commandant Vauvert, et ensuite, c'est la suite, mais c'était un duo. Le personnage d'Eva est arrivé sur 3 bouquins. En plus, ça marchait très très bien. Un de ses titres, notamment de Fièvre et de Sang, avait eu le prix du Polar à Cognac. Il m'a vraiment fait être bien remarqué à l'époque. Mais en fait, je voulais pas être enfermé dans une série. Il y a trop d'auteurs qui deviennent esclaves de leurs personnages. J'avais envie d'avoir d'autres horizons, d'explorer d'autres idées. Parce que déjà, que je me suis toujours efforcé de pas faire 2 fois le même livre à chaque fois. Là, ça me limitait trop et je me sentais à l'étroit dans une série. Donc j'ai décidé de partir vers d'autres horizons et avoir à chaque roman une aventure nouvelle, des personnages nouveaux, dans un endroit différent, et pour vraiment varier à chaque fois l'expérience que va avoir le lecteur ou la lectrice.
La sortie de Vindicta le 21 mars 2019, justement, est un tournant dans ta renommée et ton succès. Qu'est-ce qui a changé dans ton écriture?
Je pense que je m'améliore.
Oui.
J'essaye. Je mets la barre plus haut à chaque livre. Moi, je vois l'évolution de roman en roman. Certains lecteurs vont me dire que ce que j'écrivais, ben, le top de ce que j'ai écrit, c'était il y a 20 ans, mais qu'ils n'aiment pas du tout ce que j'écris maintenant. Mais c'est ça qui est chouette aussi avec ce métier, c'est que c'est pas une science exacte. On écrit un livre et on propose une expérience au lecteur et ils aiment ou pas. En revanche, chaque roman est sorti de mes tripes. Je le dis à chaque fois, mais j'écris avec mon cœur, quoi. J'essaie vraiment d'aller pousser des choses qui sont pas évidentes en moi ou des techniques littéraires que je maîtrise pas forcément pour m'améliorer. Enfin, vraiment, j'essaye de mettre la barre plus haut à chaque fois. Donc, selon moi, chaque livre que j'ai sorti était meilleur que le précédent. Mais ça n'engage que moi, évidemment. C'est vraiment ça qui me motive, c'est de, à chaque fois, me renouveler, repartir de zéro et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait? Où je pourrais emmener les lecteurs et les lectrices avec moi pour un voyage incroyable? C'est une question que je me pose.
Quand je dis que la sortie de Vindicta est un tournant dans ta renommée et ton succès, je me trompe ou pas?
En fait, tous mes derniers romans ont marqué un énorme palier. Donc après celui-là, il y a eu La Saignée et Survivante maintenant. Et chaque livre, genre je croise les doigts pour que ça continue, mais chaque livre voilà, se vend plus que le précédent, a un succès vraiment incroyable par rapport au précédent. Enfin, ça monte à chaque fois. Et j'ai conscience que c'est pas un dû et j'ai conscience de la chance que j'ai. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de chance que ça se passe comme ça. Il y a certains auteurs, le succès diminue, moi ça continue d'augmenter. Mais vraiment, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, si ce n'est que voilà, je travaille dur et je donne tout ce que j'ai pour les lecteurs.
La sortie le 29 septembre 2021 de La Saignée chez Fayard a fini d'asseoir ta réputation et ton succès auprès du lectorat thriller et roman noir. Un roman qui nous plonge dans les méandres du web où des voyeurs avides de sensations fortes s'adonnent à la torture et au meurtre en direct. On ne peut pas ne pas penser à la mort en direct du streamer Jean Pormanov, humilié et maltraité pendant des mois. Quand la réalité rejoint la fiction, tu regrettes parfois d'avoir écrit des histoires comme les tiennes ou finalement tu n'as rien inventé et que tout est possible dans le monde d'aujourd'hui?
Ah mais enfin, je sais pas que je regrette, c'est que j'en suis fier. Ça fait partie de l'écriture, c'est comprendre des sujets de société. Dans La Saignée, tout ce que je raconte est vrai. Les Red Rooms sur le Dark Web. Et encore, c'était vrai en 2020 quand je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit être encore pire, puisque l'évolution de la technologie permet des choses de stream notamment beaucoup plus faciles, beaucoup plus claires, et les gens sont de plus en plus cinglés. Et effectivement, ça fait écho avec de l'actualité systématiquement. Mais c'est juste que les histoires sont le reflet de notre société. C'est pour ça qu'on invente des histoires, c'est pour essayer d'apprivoiser un petit peu ce chaos qui fait nos vies. Et ouais, la littérature noire que je pratique, c'est juste une mise en abîme de nos questions existentielles, de nos problèmes, de tout ce qui va mal dans la société, de manière rassurante en le rendant, je sais pas comment dire, agréable. C'est pas exactement ça, mais ouais, divertissant. Et c'est une catharsis totale. Mais tout ce que je raconte dans mes romans fait écho à des faits de société, malheureusement, et régulièrement, quand je regarde les infos, je retrouve des... On pourrait être dans certains de mes livres, dans des scènes précises de certains de mes livres, que ce soit quand je vois les hommes politiques parler, ça me fait penser à mon roman Du feu de l'enfer. C'est amusant. Mais parce que voilà, les livres sont le reflet de la vie, pas l'inverse.
On te retrouve 4 ans plus tard, le 16 janvier 2025, pour ton nouveau roman Survivante. Tu nous avais habitué à plus de régularité dans les sorties de tes romans. Tu avais besoin de plus de temps cette fois.
Ouais, et puis surtout, c'est pas un secret, j'ai été très malade. Hein. J'ai eu un Covid long, comme pas mal de gens. J'ai eu pas mal de soucis personnels qui ont fait que j'ai mis entre parenthèses mon écriture pendant bien un an et demi avant de m'y remettre.
Ton nouveau roman Survivante est paru aux éditions Michel Lafond. Alors, encore une nouvelle maison d'édition. Depuis Vendicta, tu en changes à chaque nouvelle sortie. C'est plus toi qui es demandeur. Tu n'as plus à convaincre pour être signé.
Non, c'est en fait que chaque projet, jusqu'à présent, en fait, parce que là, je suis vraiment tellement content, tellement bien chez ma nouvelle maison, donc Michel Lafond, que je vais y rester clairement. Mais en fait, chaque projet séduisait des éditeurs différents qui avaient des compétences différentes. Par exemple, j'ai coécrit un livre de témoignages sur le Hellfest, où c'était les artistes, en fait, qui s'exprimaient sur leur expérience au festival. Et c'est paru chez Grund, qui fait des beaux livres, qui était spécialisé là-dedans. Chaque éditeur a une spécialité. Il y avait la prise de contact avec les éditrices qui se faisaient ou pas, ce qui a expliqué que j'ai changé beaucoup. Là, j'ai trouvé enfin ma maison parfaite, hein, qui me comprend et qui veut m'accompagner et avec qui on a pas mal de projets. Donc je vais rester chez Michel Lafond.
Ton nouveau roman, donc Survivante, est paru le 16 janvier 2025. Peux-tu nous en raconter l'histoire brièvement ?
Très brièvement. Je parlais de ma passion pour les films d'horreur tout à l'heure, voilà, avec le métal. Et en fait, j'ai pris le trope, le cliché de la dernière survivante. Donc dans tous les films d'horreur, il y a une jeune femme qui s'en sort à la fin. Il y a ça depuis Psychose, si tu penses à Massacre à la tronçonneuse, enfin, à la série des Freddy, au Scream, au genre slasher, il y a toujours une nana qui s'en sort. Et là, je me suis dit, que se passerait-il si 4 dernières survivantes de massacres, de tortures, de chasse à l'homme, de séquestration, formaient un groupe en France aujourd'hui et se rendaient compte qu'elles sont capables de retrouver les monstres qui ont échappé aux failles du système pour les trouver et les tuer. Ce qui est effectivement très perturbant parce que du statut de victime, de survivante, elles deviennent elles-mêmes la pire des choses, elles deviennent des tueuses. Et en même temps, il y a l'aspect catharsis que j'évoquais aussi tout à l'heure qui fait que c'est très 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 jouissif à voir. Et en même temps, ça met en abîme l'âme humaine, les questions existentielles qu'on peut se poser sur le besoin de se faire vengeance et justice en même temps. Et quelle est la différence entre les deux, et forcément, ce type de situation ne peut pas bien se finir. Les graines du roman sont venues comme ça, je spoil rien du tout. Là, c'est vraiment le point de départ du roman, et à partir de là, on se rend compte de l'enfer qu'elles ont généré.
Sur le bandeau qui entoure ton nouveau roman, il est écrit, de la part d'Olivier Norek, je cite, « D'une intensité rare, Cédric Cyr, au sommet du thriller français, vous n'êtes pas prêt. » Pas prêt à quoi ?
Ah, prêt à l'expérience sensorielle de ce roman, j'espère, ou surprise. Enfin voilà, mon but, je le répète encore, mais ça n'a pas changé, c'est divertir. Hein. C'est que dès la première page, le lecteur soit aspiré par le récit, et également par rapport à ce que je disais sur le fait que, selon moi, j'ai progressé de livre en livre. J'ai jamais écrit des personnages aussi humains que ceux-là, qui sont tous profondément comme nous. Et donc j'espère que le lecteur va s'attacher à tous les personnages, va en détester certains, et va vivre vraiment des aventures, des expériences humaines très fortes, hein, au travers du récit. Et c'était très 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 gentil de la part de Yenorek de me faire ce bandeau. Ça vient de lui, je lui ai pas demandé, ça vient vraiment de lui, il l'a lu, il avait lu les épreuves non corrigées qu'on envoie à la presse pendant sa tournée pour Les Guerriers de l'Hiver, excellent roman de l'année dernière. Et il m'avait appelé un matin en me proposant de faire une pub. Et j'avais dit évidemment, vas-y, fais un bandeau, parce qu'il est adorable.
Les Survivantes commencent par une traduction en français d'un extrait d'une chanson de 2023 de Depeche Mode, I Don't Say You Love Me, et se terminent par un extrait d'une chanson de 2018 d'un groupe de metal brésilien Femina Nervosa. Pour les dernières, cela s'explique. Pour la bande à Martin Elgor et Dave Gahan, une explication de texte s'impose.
Ben, en fait, l'album Memento Mori de Depeche Mode était incroyable. Je l'écoutais en boucle quand j'avais les premières idées pour Survivante. Et ça a été une évidence. Je pense que j'avais à peine écrit les premières scènes de Survivante que ça a été une évidence de revenir en arrière et de mettre cette épigraphe, enfin cette citation en début de roman, parce que ça donnait le mood du roman. C'est ce que j'écoutais en écrivant. Et le feeling de tout cet album, Memento Mori, qui va très, très funèbre, collait parfaitement à ce que j'avais envie d'exprimer. Et quant à la citation à la fin de Nervosa, c'est littéralement... leurs chansons, enfin, sur les violences faites aux femmes, c'est ouais, littéralement le sujet du bouquin. Donc, pour moi, c'était aussi évident d'inclure une citation de ce groupe-là, à plus forte raison, un groupe entièrement féminin.
Par contre, Depeche Mode, de la part d'un auteur fan de métal...
Ah, mais c'est bien Depeche Mode. Je reviens à ce que je racontais sur l'Aveyron en 1983-84. C'était le truc le plus extrême que je pouvais écouter, les albums Depeche Mode, à l'époque, remis dans le contexte. C'était l'interdit total, c'était le plus alternatif auquel on avait accès, en fait. Enfin, il y avait ça et AC/DC, quoi. à peu près. Hein. C'était avant que je découvre Metallica. Depeche Mode, je suis fan de ce groupe depuis, ouais, 1983 à peu près. J'ai pas forcément aimé toutes les parties de leur carrière, mais ce dernier album, je le recommande aux auditeurs et aux auditrices. Memento Mori de Depeche Mode, c'est la perfection de la première note à la dernière.
Bon, tu es pardonné, ça va. Tes quatre héroïnes s'appellent Farah, Kate, Tania et Cheryl. Quatre prénoms s'entend bon, une série télé de la fin des années 70. On peut dire que ce sont vraiment de drôles de dames, même si elles ne suivent pas le même chemin que la bande à Charlie et Bosley.
C'est ça, ça fait partie, c'était un petit jeu de mettre des prénoms d'actrices ayant incarné les Charlie's Angels. Parce que quand j'ai eu l'idée, comme je l'expliquais, de ces quatre jeunes femmes, avant même que j'aie tous les détails de l'histoire, je m'étais dit que ce serait comme des drôles de dames. Mais des drôles de dames, version un peu hard. Et un peu plus film d'horreur. Mais c'est l'idée, quoi, du groupe qui chacun a des compétences et qui réagit de manière différente, mais qui traque de manière impitoyable les méchants.
Les quatre prénoms ne font pas forcément très français et pourtant Survivante se déroule en grande partie en France et Farah, Kate, Tania et Cheryl sont tout ce qu'il y a de plus françaises.
Ouais.
Les prénoms plutôt d'aujourd'hui ont leur importance, il ne fallait pas trop les franciser et pas trop les dater dans le temps.
Je me pose pas trop la question, moi, à chaque fois pour mes romans, tous les prénoms... apparaissent comme des évidences, comme des symboles. Là, ça vaut pour tous les livres que j'ai écrits. En général, j'attends que le bon prénom arrive et quand j'ai le prénom en tête, je sais que ça va incarner le personnage. Dans chaque prénom, il y a un sens. Et nom de famille également.
Dans Les Survivantes, il est question de vengeance de femmes pour lesquelles la justice n'a pas été rendue. C'est le cas de nombreuses femmes, que ce soit dans le cas de viol ou de violence conjugale. La police et la justice ont encore beaucoup de mal à écouter et à justement rendre justice. On peut comprendre Farah, Kate, Tania et Cheryl, tes héroïnes.
Ah oui, complètement. Je suis pas du tout anti-police ou anti-justice, clairement, ça s'entend bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a aucune institution qui fonctionne. L'écoute des victimes est inexistante. Bon, on le voit à tous les niveaux, on n'a pas de gouvernement. Enfin voilà, l'Assemblée nationale ne marche pas. Donc c'est très très compliqué, quand on nous fait du mal, de se relever après, quoi. C'est un peu la double peine. D'abord, on nous a fait du mal et on n'a pas droit à la justice, voire même on nous reproche comme si c'était notre faute. C'est assez frustrant. Et puis surtout, les violences faites aux femmes qui explosent, les féminicides. C'est aussi des choses très personnelles que j'avais envie d'explorer au travers du roman, des colères personnelles, mais que je pense que plein de gens peuvent partager. Et j'ai pas de réponse à ça, mais c'est aussi pour ça qu'on écrit. On travaille des questions, on se dit « Ok, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Imaginons un monde autre où on pourrait corriger les choses par ceci, par cela. Est-ce que ce serait une bonne idée? En l'occurrence, pas du tout, d'aller tuer les tueurs. Mais du coup, j'explore ça en reflet de tout ce qui se passe aujourd'hui et de la situation désastreuse des institutions et des victimes qui ne sont pas appuyées, quoi.
Tes héroïnes n'ont d'autre choix pour se relever que la vengeance et la traque de leur bourreau. Mais si le sang appelle le sang, la vengeance aussi. Hein, c'est un cercle infernal. Alors, proie ou bourreau, on se demande quel est le moins pire des deux. Dans tous les cas, cela peut ne se finir que mal.
C'est ça. C'est le point de départ du roman. Après, on va pas spoiler au lecteur, mais
non.
Effectivement, ouais, c'est sûr que ce genre de choses ne peut pas bien se finir. C'est le voyage qui compte. C'est pas tant la finalité que le voyage personnel des personnages que je mets en scène de manière très violente souvent, très caricaturale. Pour prendre un exemple cinématographique, c'est celui de Tarantino. Mais je trouve que ça représente le mieux les parcours psychologiques des personnages,
peut-on...
de manière haute en couleur.
Peut-on dire que Survivante est un thriller féministe?
Oh, je sais pas, enfin, là, ça, c'est au lecteur de voir. Moi, évidemment, je considère que on vit dans un monde misogyne et que les jeunes femmes, et moins jeunes d'ailleurs, sont toujours pas considérées, pas à leur place et étouffées par la parole des mecs et par des comportements très nocifs. Après, voilà, je suis pas une femme et je me permettrai pas de parler à la place des femmes, clairement, mais il y a une sensibilité, oui, évidemment, on comprend à la lecture du roman où va ma sensibilité.
Tu es désormais un des auteurs les plus prisés du thriller et tu fais partie des têtes d'affiche des salons du polar. Comment vis-tu cette reconnaissance, cette célébrité?
J'ai beaucoup de chance, je le répète, et j'en ai conscience. Et j'en profite parce que je ne sais pas si ça va durer éternellement, mais c'est vraiment super. Il y a des gens extraordinaires qui m'invitent un peu partout. Je rencontre des lecteurs, des lectrices partout. J'ai vachement de chance. C'est plaisant, je me lève le matin, je fais ce qui me plaît. Ça n'a pas de prix, c'est l'émotion que ça m'évoque. Donc non, je suis super content.
Tu sembles être à l'aise avec ton public, tu l'as toujours été.
Oui, après j'ai toujours considéré que je suis au service du lecteur. Donc j'écris des choses, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, mais le but c'est de divertir les gens. Les lecteurs et les lectrices ont un choix énorme de bouquins et ils ouvrent des bouquins et parfois ils trouvent ça super, parfois ils s'emmerdent et ils finissent pas le livre. Et moi, mon boulot, c'est de faire des histoires qui soient assez chouettes, assez bien écrites, assez originales, assez humaines pour que, qui fassent écho à notre propre expérience, pour que les gens, ben, décrochent pas et passent un bon moment. Donc ça, c'est mon rapport avec le lecteur, je réfléchis pas au-delà de ça.
Tu as intégré récemment la Ligue de l'Imaginaire aux côtés de Maxime Chattam, Franck Tillier, Alexis Leipsker, Olivier Norek, Nicolas Lebel, Johanna Gustafsson, Mathias Malzeux ou Bernard Minier. Tu en rêvais forcément, c'était une demande de ta part?
Eh bien non, en fait, ce sont des amis, hein, tous, parce que c'est un petit milieu, la publication. Comment ça s'est passé? Et c'est Olivier Norek, encore lui, qui m'appelle encore une fois un matin, parce que c'est le président de la Ligue de l'Imaginaire, en me disant, Cédric, écoute, est-ce que ça te dirait de nous rejoindre officiellement? Et j'ai dit évidemment, c'est super. Mais ce sont des amis et c'est un gage de plus d'amitié qu'ils m'ont fait, puisqu'on partage des valeurs communes, on défend la littérature populaire, tous, autant qu'on est.
Dans la Ligue de l'Imaginaire, tu es plutôt bien entouré côté auteur, c'est une sacrée reconnaissance, bien des autrices et des auteurs aimeraient être à ta place.
Ouais, je sais, c'est des questions que je me pose pas tant que ça, en fait, mais je sais pas. Enfin, pour moi, c'est, je trouve, oui, j'en suis fier, ouais. Clairement. Évidemment, voilà, c'est par cooptation, et petit à petit, la Ligue s'ouvre à d'autres auteurs. Et on fait des actions caritatives. Ce mois-ci, et j'en profite pour le signaler, mais est sortie une anthologie dans laquelle j'ai participé, qui s'appelle Le pire des Noëls, et c'est le numéro 2, il y en a eu l'année dernière, et là c'est le spécial frayeur, dont tous les bénéfices sont reversés au centre de traduction et d'édition et d'édition en braille, pour soutenir l'association qui fait tout ce qu'elle peut pour les déficients visuels, pour l'édition de livres en braille notamment. Et chaque année, il y a donc un recueil caritatif. C'est l'association qui est parrainée par l'auteur Bernard Minier, qui en plus est aussi un membre de la Ligue de l'Imaginaire et qui se bouge beaucoup pour cette association.
Tu as commencé ton parcours d'auteur avec l'écriture de nouvelles. Tu n'as jamais cessé d'en faire paraître, je pense, au recueil Frisson Noir en 2020 ou Déguster le Noir paru en 2023. C'est ta façon à toi de ne pas perdre la main côté écriture?
Ouais, c'est des propositions qu'on me fait de temps en temps, des directeurs ou des directrices d'anthologie qui m'appellent en me demandant est-ce que j'aurais envie de participer à tel ou tel sujet. Et des fois, je leur dis non, j'ai pas le temps. Et des fois, je leur dis, mais c'est super, le sujet me botte. Hein, ce qui fait que chaque année, j'écris une ou deux nouvelles par-ci, par-là, au gré des sollicitations. Quand j'ai une idée, quand j'ai envie de faire plaisir, quand c'est l'occasion. Mais c'est vrai que j'en écris très peu. Mais toutes celles que j'ai écrites, j'en suis très fier, par contre.
Tu es resté fidèle à ta région, le sud-ouest, appelé aujourd'hui l'Occitanie, et tu habites à Toulouse. Ton inspiration n'a pas forcément besoin de te faire voyager?
Pourquoi pas, petit à petit, mais c'est vrai que j'ai tendance à utiliser des lieux que je connais, c'est assez rassurant. Donc je place mes romans à Toulouse, notamment la ville où je vis et que j'adore. Mais c'est vrai que tous les romans que j'ai écrits se placent dans des lieux que je connais. J'ai vécu 2 ans à Montpellier, et en fait, j'ai écrit un bouquin qui se passe à Montpellier, c'est Du feu de l'enfer. Puisque j'aime bien placer mes péripéties dans des endroits que les lecteurs du coin peuvent reconnaître. Donc ancrés dans des localisations très très précises. Et puis je trouve ça aussi rassurant. J'invente beaucoup de choses au niveau romanesque, au niveau des personnages, au niveau des péripéties. Le fait d'avoir un cadre hyper réel pour rendre ça encore plus vrai, finalement, me plaît bien.
J'imagine que tu es dans l'écriture d'un nouveau roman. Dans quel univers emmèneras-tu tes lectrices et tes lecteurs?
Il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais ce sera encore un univers très différent. À la fois dans le sujet, dans le ton, enfin, ça restera du trait noir. Ça restera, je pense, dans la ligne de tout ce que j'ai fait, mais il y aura des relations humaines encore différentes de celles que j'ai pu explorer jusqu'à présent. Mais je suis en pleine écriture, donc je ne peux pas en parler encore.
Tu es, on en parlait en début d'émission, un fan de métal. Tu en as gardé le look. Ton public n'est pas forcément fan de hard rock. Pas forcément.
Non, après, le hard rock, c'est devenu mainstream. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de faire du métal. Il y a le métal très extrême, il y a le heavy des vieux, comme je suis. Mais on parlait de Gamma Ray tout à l'heure. Une grande partie de la population française écoute du métal. Et des gens très différents, déjà de tous les milieux sociaux, culturels, des prolos, des bourgeois, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes. Voilà, le métal, c'est très divers. Et donc forcément, dans le lectorat, il y a des gens qui écoutent du métal. Il y a tellement de métal.
Tu parles souvent musique avec les lectrices et les lecteurs?
Pas forcément. Parfois, oui. Des fois, j'en croise à des concerts, dans des arénas. Les gens viennent me voir et on boit une bière ensemble et on assiste au concert ensemble. Mais non, ce n'est pas un sujet non plus trop récurrent dans les salons du livre.
Il y a un point commun entre bon nombre d'auteurs de polars et de thrillers, c'est le rock et le métal en particulier. Alors je pense notamment à Alexis Leipsker, à Nicolas Lebel.
Qui écoute du métal. Hein,
ou à Ivan Zingberg, ou Nicolas Newton aussi, il me semble. Quel est le lien entre ton style éditorial et ta passion musicale?
Les thématiques que j'explore sont souvent liées à des thématiques qui nourrissent les albums de métal, c'est vrai. Mais dès qu'on parle de choses un peu sombres, de sectes, en début de carrière avec le fantastique, les esprits, les démons, la magie... les sectes sataniques. Je recite à nouveau mon roman du feu de l'enfer, mais dont j'ai piqué le titre à un morceau d'un groupe suédois de black metal qui s'appelle Marduk, que j'adore, c'est un de mes groupes préférés, et qui avait écrit un morceau qui s'appelait Of Hellfire. J'ai joué avec les mots pour faire du feu de l'enfer, où je parle d'un Hellfire Club. Mon style découle de ce que j'écris. Le lecteur s'en rend pas forcément compte, et c'est pas le but, c'est pas important, mais la musique nourrit mon écriture, mon schéma mental, l'association d'idées que je peux avoir quand j'invente mon scénario, quand je crée mes personnages. J'en ai besoin pour écrire.
On parlait de métal, tu as écrit et tu le disais en 2019 en collaboration avec Isabelle Marcelli, un livre intitulé Hellfest, le festival raconté par les groupes. Une nouvelle édition augmentée a vu le jour en 2022. Comment vous est venue l'idée d'interviewer près de 100 groupes racontant le plus grand festival
plus
français du côté?
Ouais. En fait, l'idée elle est venue que j'étais au Hellfest avec Isabelle Marcelli justement en 2018 et en rentrant du festival, j'ai déjeuné avec une éditrice qui m'avait publié par le passé et qui on se disait il faudrait qu'on retravaille ensemble un jour et vu que je venais de lui parler du Hellfest, elle m'a suggéré l'idée de proposer quelque chose autour du Hellfest. Donc j'en ai parlé à Isabelle Marcelli, qui avait beaucoup plus de contacts que moi dans le milieu. Et on est parti à Clisson parler au boss du Hellfest. Et on a décidé qu'on ferait un bouquin dont le concept serait de donner la parole au groupe. En fait, de changer d'angle par rapport à un nombre d'autres livres déjà faits sur le festival, sur l'histoire qui est bien documentée. Il y a d'autres livres sur le sujet. Mais le nôtre, il y a vraiment c'est uniquement les groupes qui s'expriment. Et à travers eux, on voit l'histoire du festival, l'évolution. On voit le rapport avec la France, le public, le fait de jouer live sur scène devant des dizaines de milliers de gens. Chaque groupe nous a donné un éclairage différent là-dessus. On voulait de l'humain, en fait. C'est pas un bouquin de promo où les groupes parlent de leurs albums, mais ils parlent de leur vie, en fait, et de leur rapport au festival en général. Et ça, c'était super chouette, et je suis très très fier d'avoir participé à ces événements. Puis en plus, en tant que fan, ça m'a donné aussi l'occasion de rencontrer des idoles que j'avais. Voilà. J'en ai aussi profité.
Il manque justement quelques groupes de légendes, hein. Je pense à Iron Maiden ou Metallica. C'est forcément un regret de ne pas les avoir rencontrés au Hellfest?
Non, mais alors en fait, on en a approché certains, des très gros, mais le problème, c'est terrible à dire, mais les gros avaient moins de choses à dire que les petits, ou les groupes comme Sabaton, qui est moyenne, ou Ghost, enfin, qui sont quand même très gros maintenant, mais ou Halloween. Les trop grosses têtes d'affiche, en fait, sont tellement hors des festivals qu'elles n'ont pas grand-chose à dire, justement, d'humain, de personnel. C'est un peu dommage. On a vraiment gardé, on a parlé à beaucoup plus de groupes que ceux présents dans le livre, tel qu'il est. Mais en fait, on a gardé ceux qui étaient vraiment les meilleurs textes, les meilleures expériences, souvenirs, plus que se baser sur le groupe en particulier.
Tu as ressorti au format poche bon nombre de tes anciens romans sous ta véritable identité, Cédric Cyr, et avec une nouvelle pochette. C'était une demande de ton public ou de tes éditeurs?
Non, j'ai juste récupéré tous mes droits, en fait. J'ai fait comme Taylor Swift ou Motley Crue. J'ai récupéré les droits sur mes livres et en fait, d'autres éditeurs les ont rachetés. Voilà, ils ont réédité et ils continuent d'ailleurs de les ressortir. HarperCollins en a encore plusieurs à ressortir. Et ce qui était chouette pour moi, c'est que ça m'a donné l'occasion de les relire et de dépoussiérer deux, trois petites choses de répétition, de fautes d'orthographe qui restaient, de petits détails. Ça, en fait, c'est l'équivalent de remaster, de nouveaux masters pour les romans. Et là, c'est vraiment les versions définitives.
Ces rééditions permettent aux anciens romans d'avoir une deuxième vie. Ton public ne les avait pas forcément lus?
Non, parce qu'en fait, mon public grandit de plus en plus et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas lu mes premiers romans, donc ma partie fantastique, ma série policier et fantastique. Et donc, il y a encore pas mal de gens qui achètent les anciens et vont continuer. Comme je disais, c'est pas fini les rééditions. Et c'est super chouette. Ça permet au livre de continuer à exister. Parce que ouais, vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont pas lu. Ce qui est super chouette pour moi. Parce que je me dis, il y a encore plein de gens qui peuvent acheter des bouquins et à qui potentiellement cela peut plaire.
Tes livres sont traduits en plusieurs langues, dont l'anglais, le polonais, le persan ou encore le turc. T'as eu l'occasion de présenter tes romans à l'étranger?
Non, si à l'étranger, mais francophone, style Suisse, Belgique. Je suis encore jamais allé au Canada. Mais en fait, non, sur les autres pays, je n'ai jamais été contacté pour me déplacer. Et en plus, pour la plupart des pays, je suis incapable de lire la traduction en polonais, par exemple. J'ai 3 bouquins qui ont été traduits en polonais. Je pourrais pas vous dire à quoi ressemble la traduction, parce que j'ai aucune idée. Mais les bouquins sont plutôt chouettes, sont plutôt beaux et... Donc c'est chouette, ça donne des vies supplémentaires au roman, encore une fois. Ça touche des lecteurs supplémentaires.
Bien, tout à l'heure nous évoquions les séances de dédicace, il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Cédric, quel est ton dernier coup de cœur littéraire?
Mon dernier coup de cœur littéraire, alors je lis pas mal de choses super chouettes, je dirais Angelina Delcroix, avec Mémoire d'un expert psychiatre, qui est, je pense, le bouquin que j'ai préféré lire cette année.
Côté proposition de la quinzaine, notons le polar de Vincent Villa, Le cimetière des enfants perdus aux éditions Le Scriptorium, le roman de Jasmine Ward, Nous serons tempête aux éditions Belfond, le polar d'Emmanuel Giampin au Semper Amemus aux éditions Les Presses du Midi, le thriller de Florent Marotta, Parmi les ombres aux éditions Magnus, le polar de Maria P. Michitelli, La solitude des bois noirs aux éditions Caïman, le roman d'Emmanuel Flech, Quitter Berlioz aux éditions Kalman-Lévy, le polar de Diane Jeffrey, The Guilty Mother aux éditions Point, le thriller de René Manzor, Quand ils viendront aux éditions Kalman-Lévy et qui sera mon prochain invité, le polar d'Elisabeth George, Une silente agonie aux éditions Presse de la Cité, le thriller de Margot Estner, La théorie du mal aux éditions Les Lauréats, le roman de Taffy Brodesser-Ackner, Le compromis de Long Island aux éditions Kalman-Lévy, le polar de Donna Leon, L'épreuve du feu aux éditions Kalman-Lévy, Lévy, le roman de Christian Pernoud, J'aimerais te dire aux éditions Tornada, le polar de Thierry Boursy, Bastion, Adieu mon commandant aux éditions Moby Dick, le roman d'Anouk Lejzik, Copeaux de bois qui est sorti aux éditions de poche J'ai lu, le thriller de Nicolas Feuze, La secte aux éditions Rosianne Wolf, le roman de Bénédicte Lacapria, Le jeu des possibles aux éditions Jouvence, le thriller d'Alice Hunter, La femme du serial killer aux éditions de l'Archipel, le roman d'Ivan Strelzik, Les comptoirs d'Orient aux éditions de l'Astronome, le polar de Laurent Maillard, O'Leary Van Root, Prélèvement obligatoire aux éditions Moby Dick, le thriller de Max Monnet, Chien fou aux éditions HarperCollins Noir, et le roman de Scott Preston, Le sang des aux éditions Albin Michel. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Cédric, as-tu des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer? Mais pas forcément, parce que tu as des grosses dates à annoncer quand même.
La région proche, je pense pas. Je serai demain, le 24, je serai déjà en Belgique. Je serai à l'Iris Noir, le salon du polar à Bruxelles.
Tout souffrera des
mon anniversaire.
Tout souffrera des bougies en Belgique.
C'est pour ça que je suis perturbé sur le oui. Demain, c'est le 24. Et effectivement, je vais passer 3 jours, 4 jours même à Bruxelles. Après, je serai au salon du livre, à la foire du livre de Brive, qui est vraiment le rendez-vous littéraire incontournable où il y a absolument tout le monde. Je suis parrain du festival du polar noir sur Ormesson en région parisienne. Ça, ce sera mi-novembre, vers le 15-16 novembre. Je suis à Colmar. Enfin, je fais pas mal de choses. J'ai des choses tout le temps. J'ai l'impression que toutes les semaines, je fais des choses. Je suis jury dans un tremplin métal Road to Midem 2. Ouais, je fais pas mal de choses, en fait.
Du côté des séances dédicaces dans la région proche, le samedi 25 octobre 2025, à la librairie Develay à Villefranche-sur-Saône, Aurore Brevet de 10h à 18h. Le vendredi 31 octobre 2025, à la librairie La Procure à Lyon, Eric Emmanuel Schmitt à 16h. Le samedi 1er novembre 2025, à la Chapelle de la Trinité à Lyon, le premier salon Mes livres, mes raisins de 11h à 20h. Un salon que l'on retrouve également le dimanche 2 novembre, toujours à la Chapelle de la Trinité à Lyon. Toujours le dimanche 2 novembre, à l'espace Jean Gabin à Chaponnay, dans le Rhône, c'est le salon Chapolard de 10h à 17h, avec entre autres Vincent Villa, Manu Giampino, Jacques Maurice, Sébastien Julien, Annie Servant, Didier Fosset et Isa de Solf, Lou Valérie Vernet, Maria Michitelli, Sandrine Bertani, Daniel Martinange, Diane Jeffrey, Florent Marotta en tant que parrain et gagnant du prix 2024, Christophe Dubourg, Sébastien Boucherie et René Manzor qui est l'invité d'honneur. Pour terminer le dimanche 2 novembre 2025, à la salle de l'Arbuel à Condrieux dans le Rhône, le salon du livre de Condrieux de 10h à 18h avec Gérard Sarian. Et on termine le jeudi 6 novembre 2025 au Cercle Saint-Irénée à Lyon dans le 5e, Maryse Vuillermet et Michel Nevers à 19h30. Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Cédric Cyr, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci, merci à toi, merci aux auditeurs, aux auditrices, c'était un vrai plaisir.
Rappelons que ton dernier roman, Survivante, est paru le 16 janvier 2025 aux éditions Michel Lafon. On peut se le procurer un peu partout sans oublier tes autres romans.
Ils sont tous bien, je les recommande. Mais ouais, non, les gens qui ne me connaissent pas, j'encourage à découvrir avec Survivante, qui est vraiment mon meilleur livre à ce jour.
On le trouve un peu partout.
Il est partout, il est partout. S'il n'y est pas, il faut le demander, mais il est normalement partout.
Et on peut suivre ton actualité sur Internet via ton site Internet à www.cedric-cyr.com. Chose rare pour un auteur, je trouve. Dans l'ensemble, il n'y a pas de site Internet pour les auteurs.
Oui, c'est parce que je suis vieux et que le site était là depuis longtemps, il est resté là. Mais je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, les trucs de vieux encore. Si je me permets de dire une chose importante aux auditeurs et aux auditrices, je n'ai que des pages, c'est avec le petit V bleu vérifié. Il y a des escrocs partout qui se font passer pour tous les auteurs et autrices. Et il y a forcément des faux Cédric Cyr qui contactent les gens, qui laissent des commentaires en leur demandant de leur faire des demandes d'amis, ce genre de choses. C'est forcément des escroqueries, il faut le savoir. Pour moi, comme pour mes collègues, qu'il faut vraiment aller sur les pages officielles et surtout pas croire les commentaires de brouteurs qui essayent de choper des gens. Et les gens se font avoir, c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a encore des gens qui se font avoir régulièrement.
Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge, de vieux comme tu dis, et qui n'ont pas site internet. Donc toi, t'en as un, c'est drôlement important.
Ça fait 20 ans que je fais ce boulot, l'air de rien, et je l'avais depuis le début, donc en fait je l'ai gardé. Mais c'est vrai que les gens consultent plutôt les médias sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux.
Ils sont inévitables. Le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 6 novembre 2025, sera le romancier René Manzor. Tu connais ?
J'adore. Je le croise souvent. J'adore ce qu'il écrit, j'adore ses films. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un petit milieu, hein, comme je disais. On se connaît tous. Hein. 3615, Code Père Noël.
Et Le Passage.
Pardon,
Le Passage.
Avec Delon, ouais.
Il nous parlera donc de sa passion pour l'écriture et de son dernier roman en date, Quand ils viendront, paru le 3 septembre 2025 aux éditions Calman Lévy. Cédric, bonne chance pour la suite de tes aventures de romancier.
Merci beaucoup. Très bonne soirée.
Merci. Bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
En espérant rencontrer les auditeurs peut-être, dans ces signatures.
Forcément, forcément. Et à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.